lumière divine, la mission sacrée. Alors reprenez votre place à la table ronde, la vraie.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Picasso, s'il avait les cheveux, c'est certain qu'aujourd'hui il porterait un chignon comme des femmes.
C'est ici mon palais, César. Tous les appartements y sont donc à ma disposition.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clémentine.
Bonjour
Jean-Luc.
Bonjour Stéphane.
Bonjour David.
Bonjour.
Et bonjour à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre médecin légiste de l'histoire, Philippe Charlier. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Quelle élégance. Enfin, c'est de la radio en même temps. Je suis ravi de vous retrouver, comme chaque
après-midi,
sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, il fanfaronne avec les fantômes. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par trois sœurs, Léa, Margaret et Kate Fox, qui ont fait bouger les tables et les lignes du spiritisme aux États-Unis aussi, quitte à déplaire à une partie de la population qui n'a jamais cru en leurs soi-disant dons. Puis après les sœurs, un couple, Ed et Lorraine Warren, des chasseurs de fantômes, des enquêteurs du paranormal. Normaux pourtant, mais en apparence, bah, vous verrez. Et puis, après les morts qui parlent aux morts, le vivant qui parle aux morts aussi.
Vous parlez de nos auditeurs, Stéphane ?
Non, Jean-Luc. De notre troisième personnage du jour, dont vous dresserez le portrait vers 17h30, une star de télé-réalité aux États-Unis qui communique avec les fantômes, des fantômes proches des célébrités, hein, qui sont encore plus stars que lui.
Oui, il s'appelle Tyler Henry. Il prétend entrer en communication avec l'au-delà et savoir parler aux morts. Et ça, Hollywood adore, vous verrez.
Eux aussi, Hollywood les adore. Enfin, c'est ce qu'ils nous prétendent, évidemment. C'est pour ça qu'on a augmenté leur salaire. Mais enfin bon. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui allez-vous nous parler ?
Bah, écoutez, moi je trouve que fricoter avec un fantôme, ce n'est quand même pas très sérieux. Donc tant qu'à faire pour que la morale soit sauve, autant l'épouser. Voilà qui se pratique couramment depuis des lustres dans certaines provinces chinoises rurales.
Ah oui ?
Je vous expliquerai cette bien étrange tradition.
Ah. Alors lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, d'une obsession, souvent la sienne. David Cassé-Lopez, de quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, de ce qu'on appelle les voiturettes, aussi les voitures sans permis. C'est-à-dire ces toutes petites voitures qui permettent aux gens qui n'ont pas leur permis de circuler.
Ah oui, on en voit à la campagne.
Voilà, exactement. Et puis, comme moi, je fais partie de cette catégorie infâme et honteuse des gens qui n'ont pas leur permis. C'est vrai que c'est quelque chose qui est susceptible de m'intéresser.
Oui. Si, les gens qui n'ont plus leur permis.
Oui, exactement, ça marche aussi.
Non mais, ceux qui ont trop bu ou qui veulent, sortir le soir.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous insinuez ? C'est-à-dire, si on a un petit peu bu, on peut prendre une voiture sans permis.
C'est ça qui m'étonne.
Ah, c'est vrai que c'est assez étonnant, ça.
Oui, ouais. C'est bizarre. Enfin bon, ouais. Les origines, c'est en toute fin d'émission. Et juste avant, comme dirait l'autre...
Mais aïeux, quelle époque ! Mais aïeux, quelle époque !
Oui, mais aïeux, quelle époque ! Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte dans l'Antiquité et on parle fantômes encore et toujours. Avec vous, Philippe Charlier, on va plonger dans leurs racines.
Et oui, Stéphane, vous allez revêtir votre plus belle toge et vous allez voir que dans l'Antiquité, vous étiez un autre, Stéphanos, et vous alliez parcourir la garrigue à la recherche des fantômes dans différents sanctuaires.
Ah, mais c'est bien.
Stéphanos ?
Oui.
Mais j'aime tellement.
Ça fait tétanos, non ? Je ne sais pas. Ça fait genre...
C'est-à-dire que si vous voyez un fantôme, vous avez un peu peur, fait « Bonjour, je m'appelle Stéphanos ». Ça calme, tout de suite.
On essaie d'imaginer Stéphane en chemise de nuit courant dans la garrigue.
Mais, j'imagine très bien.
Oui, moi aussi. Alors, mes aïeux, quelle époque ? Ce sera tout à l'heure vers 17h45. Merci Philippe.
Merci Philippe, mais vous avez tout dit Stéphane ?
Oui, je crois.
Non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Écoutez.
Oui, bon d'accord Jean-Luc, je me rends à l'évidence. Dans trois quarts d'heure, je vais devenir votre jouet, votre chose.
Oh.
Vous allez m'humilier avec des questions qui ont un vague rapport avec l'histoire.
Oh, vague. Écoutez, je viens de regarder les questions. Ça ira du T-Rex à Tocqueville.
Ah oui, c'est joli grand écart. Hein. Je ne vous connaissais pas cette souplesse, Jean-Luc. Mais pour l'heure, je vous raconte nos premiers personnages du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Alors qu'elles étaient âgées d'une dizaine d'années à peine, elles étaient capables de parler avec les morts. Grâce à leur table tournante et leur langage commun avec l'au-delà, elles sont devenues célèbres dans le monde entier. Je vous raconte maintenant trois sœurs qui ont fait bouger le spiritisme, Léa, Margaret et Kate Fox. Nous sommes en 1861 à New York dans le salon de Charles Livermore, un riche banquier qui vient de perdre son épouse. Charles se trouve en compagnie d'une célèbre médium, Kate Fox. Les deux, en pleine séance de spiritisme, se tiennent silencieux devant une table en acajou. Soudain, Un coup résonne sur le meuble qui se met à monter et descendre dans les airs. La porte du salon tremble. Les fenêtres s'ouvrent et se referment violemment. Des sons étranges se font entendre. Et une forme mystérieuse apparaît dans les airs, prenant l'apparence de celle qui n'est autre que l'épouse récemment décédée de Charles Livermore, Estelle. Livermore a engagé Kate Fox pour venir plusieurs fois par semaine. Et la médium semble bien faire son travail puisque l'esprit d'Estelle revient lui aussi régulièrement voir son époux. Et parfois pas seul. Un soir, elle est accompagnée d'un homme. Il est petit, trapu, vêtu de noir jusqu'à sa casquette de velours. Par le biais de l'écriture automatique, le revenant dévoile son nom. Il s'agit ni plus ni moins de Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Si le veuf est pleuré et bouleversé par ses visites de l'au-delà, Kate Fox est quant à elle habituée à fréquenter les morts. Depuis de nombreuses années, avec ses sœurs Léa et Margaret, elles sont les figures clés du mouvement spirit. Léa, Margaret et Kate Fox sont nées aux États-Unis dans une famille de fermiers méthodistes d'origine allemande. Léa, ainsi que les trois autres membres de la fratrie, a déjà quitté le nid lorsque les parents, Margaret et John Fox, accompagnés de leur dernière fille, Margaret, elle aussi, et Kate, s'installent dans le village de Hydesville, dans l'État de New York. Quelques mois après avoir emménagé dans une petite maison en bois, la famille perçoit durant une nuit des bruits si forts qu'ils l'empêchent de dormir. Le père se lève, fait une ronde pour détecter l'origine du bruit, mais sans succès. Margaret et sa sœur cadette Kate guettent, elle, plusieurs nuits durant ces sons étranges qui résonnent, un peu comme des coups contre un mur. Dans la nuit du 31 mars 1848, les bruits se reproduisent et ils ont encore augmenté en intensité. Les deux fillettes, persuadées que la maison est hantée, imitent les sons qu'elles entendent et voilà que l'esprit se met à leur répondre. Kate claque même dans ses doigts, enjoignant l'esprit à l'imiter, et ce dernier s'exécute. Margaret et Kate Fox avertissent alors leur mère qui s'effraie. Le diable serait-il entré dans leur foyer ? Ces filles la rassurent. Il s'agit seulement d'un esprit frappeur répondant au nom de Split Foot, pied crochu. Mrs. Fox pose alors diverses questions aux revenants et lui demande notamment combien elle a d'enfants. L'entité donne une mauvaise réponse. Sept coups sont frappés au lieu de six. Mrs. Fox repose la question et ajoute « Combien de vivants ?» Six coups. Et combien de morts ? Après une pause, elle entend un coup plus puissant. L'esprit semble avoir tenu compte de leur enfant décédé en bas âge. La famille Fox est bientôt rejointe par leurs voisins qui se prêtent à leur tour à l'interrogatoire. Tous apprennent alors que l'esprit est celui d'un colporteur, assassiné 5 ans plus tôt par de précédents locataires pour lui dérober son argent, puis enterré dans la cave. Si les fouilles à l'endroit indiqué ne donnent rien, les sœurs deviennent pourtant célèbres, aux alentours de Hydesville. Encensées par les uns, accusées de mystification par les autres, les Fox quittent la ville pour se réfugier à Rochester, chez Léa, la première fille du couple, de près de 20 ans de plus que ses sœurs. Léa, elle, se contente de servir d'impresario à ses deux jeunes sœurs, mais bien vite, elle se découvre elle aussi des talents de médium. Ensemble, elles constituent le fameux trio des sœurs Fox qui fondent un cabinet de consultation spiritualiste, Fox and Fish, Fish étant le nom d'épouse de Léa. Ce qui n'était qu'un jeu innocent devient alors un business très rentable. Contre rétribution, les sœurs Fox promettent aux parents en deuil ou aux veuves éplorées d'entrer en communication avec l'esprit de leur chère disparue. En novembre 1849, les premières démonstrations publiques des sœurs Fox attirent de nombreux spectateurs, dont de nombreux journalistes au Corinthian Hall, le plus grand théâtre de Rochester. Certains sont venus par curiosité, deux d'entre elles n'ont même pas 15 ans. D'autres, dans le but de démasquer l'imposture de ces soi-disant médiums. En apprenant qu'aucune fraude n'a été détectée par le comité d'inspection présent dans la salle, une partie du public s'enflamme et lance des pétards. Des plaisanteries grivoises fusent et des hommes montent sur scène, si bien que les sœurs Fox, terrifiées, doivent sortir par la porte arrière du théâtre, entourées par des policiers. Si cette première représentation publique aurait pu s'avouer désastreuse pour la carrière des sœurs Fox, il n'en est rien, bien au contraire. Grâce aux journaux locaux de Rochester et de New York qui détaillent leur show, Léa, Margaret et Kate Fox deviennent célèbres dans tous les États-Unis et même au-delà, forcément. Installées désormais avec leur famille à New York, les jeunes sœurs médiums donnent des séances de spiritisme à l'hôtel Barnum, en présence de personnalités éminentes, parmi lesquelles le romancier Fenimore Cooper ou l'historien George Bancroft. En septembre 1850, la visite aux États-Unis de la célèbre cantatrice suédoise Jenny Lind, qui tient à rencontrer personnellement Kate Fox, achève de convaincre l'opinion. Désormais, plus rien ne semble pouvoir brider le mouvement spirit, pas même les accusations de fraude qui continuent d'être portées contre les sœurs Fox. Trois médecins, professeurs à l'université de Buffalo, publient bien un article expliquant qu'elles trompent leur monde en faisant craquer leurs os. Mais le discours des scientifiques est ignoré. Le spiritisme est désormais un véritable phénomène qui compte des millions d'adeptes à travers le monde. C'est comme une religion. Et de célèbres personnalités fascinées par l'au-delà se mettent aussi à faire bouger les tables. De célèbres personnalités comme la reine Victoria et l'empereur Napoléon III se mettent eux aussi à faire parler les esprits. Au début des années 1850, Léa Fox, qui s'est remariée, officie à New York, tandis que Kate et Margaret, encore adolescentes, parcourent les États-Unis chaperonnées par leur mère. Ensemble, elles entrent en communication avec les esprits au moyen de coups, ou pas d'ailleurs, la mise en mouvement d'objets comme un guéridon. Elles peuvent même transmettre des messages en écrivant l'alphabet, puis en désignant des lettres pour former des mots soufflés par les esprits. En contrepartie, leurs riches clients les gâtent avec des bijoux, parfois du champagne, que les très jeunes femmes acceptent bien volontiers. Le mode de vie des sœurs Fox, qui pour couronner le tout sont plutôt jolies, attire les commérages. Lors des séances de spiritisme, il arrive aussi qu'elles reçoivent des hommes dans la pénombre et parfois même leur donnent la main. Un comportement scandaleux pour l'époque. Cette mauvaise réputation n'empêche pas Elisha Kane, un jeune médecin et explorateur, de s'éprendre de Margaret. Les jeunes gens se seraient secrètement fiancés en 1853. Elisha a 33 ans, Margaret 13 années de moins, mais après une mission dans le Grand Nord, la santé d'Elisha Kane se dégrade. À sa mort, Margaret Fox sombre dans une profonde dépression. Elle souffre d'alcoolisme et ce serait d'ailleurs pour cette raison que Léa Fox, devenue chef de la famille à la mort de leurs parents, envoie Kate en Angleterre, loin de l'influence de Margaret. À Londres, Kate fait la rencontre d'un avocat également spirit nommé Henry Jenkins. Le couple a deux enfants, mais le bonheur prend fin lorsque son mari meurt en 1881. Kate Fox rentre à New York alors que Léa a déjà publié un ouvrage racontant l'histoire des Fox dans lequel elle s'attribue un rôle majeur au détriment de ses sœurs. Les deux cadettes se rebellent et l'accusent d'avoir profité de leur talent pour gagner de l'argent. Pire, elles avouent n'avoir jamais communiqué avec l'au-delà. Oui, la fraude aurait été mise au point par Léa, alors que Margaret et Kate étaient encore enfants. Le 21 octobre 1888, à l'Académie de musique de New York, Margaret Fox monte sur scène et dévoile ses pieds au public, ainsi qu'à des médecins, pour prouver que c'est en faisant craquer très fort les jointures de ses orteils qu'elle crée les coups attribués aux esprits. Après cette démonstration, il n'y a évidemment plus grand monde pour engager les sœurs Fox. Léa Fox meurt en 1890, Kate et Margaret suivent en 1892, puis 1893, alors qu'elles vivaient toutes deux dans la misère et dans l'alcool. Au début du XXe siècle, dans la maison de leur enfance, à Hydesville, on découvrira des ossements. Certains prétendront qu'il s'agissait des restes du premier esprit avec qui les sœurs Fox avaient communiqué dans leur enfance, de quoi alimenter encore un peu le mystère des sœurs Fox.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler des sœurs Léa, Margaret et Kate Fox avec Clémentine Portier-Kaltenbach et le docteur Philippe Charlier, nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste de l'histoire du spiritisme, commissaire de l'exposition Phénomène, l'inexpliqué face à la science, qui se tient actuellement au Musée de l'Histoire de la Médecine de Paris. Bonjour Philippe Baudouin.
Bonjour, merci de me recevoir.
Philippe Baudouin, pour poser un peu de contexte pour nos auditeurs, nous sommes à la moitié du 19e siècle, à une époque où le mouvement spiritualiste prend de l'ampleur aux États-Unis et en Europe. Comment vous expliquez cela ?
Bien, écoutez, il faut prendre en considération, je pense, le contexte précisément de l'époque, économique, culturel et religieux. Économique parce que, eh bien, il faut insister là-dessus, les Sœurs Fox vont faire émerger, vont donner naissance dès 1852 à toute une génération de médiums professionnels. Hein, la médiumnité devient la possibilité pour des femmes d'obtenir l'autonomie professionnelle, financière et donc de s'émanciper. Il faut insister aussi sur le contexte religieux, je pense, puisque côté américain, il faut dire que la région dans laquelle le spiritualisme va prendre naissance est une région très favorable à cela, avec des courants hétérodoxes du protestantisme qui sont justement plutôt ouverts à ce type de phénomène de communication avec l'au-delà, et puis social, un contexte social aussi très important. Il faut juste rappeler qu'à la fin justement de la guerre de sécession en 1865, on a à peu près 620 000 morts. Et pour énormément de familles endeuillées, eh bien, ce mouvement religieux va fournir une réponse sociale à tout ce chagrin.
Clémentine.
Mais revenons à cet épisode du 31 mars 1848 où les sœurs Fox sont confrontées pour la première fois à un fantôme. On est quand même en pleine campagne, dans cette guitoune de cette famille méthodiste, tout ce qu'il y a de plus recommandable, j'allais dire. Et leur mère semble, elle, réussir à communiquer en tapant des mains. Ça paraît simple comme bonjour, en fait, de communiquer avec les fantômes, mais quel est l'enchaînement des événements ? Voilà, elles sont dans leur cabane, elles entendent trois bruits, ça y est, c'est parti pour une aventure étonnante.
Oui. Vous y avez en quelque part répondu à cette question, c'est la question acoustique. Le spiritualisme, au départ, est un phénomène, puis un mouvement qui se fondent essentiellement sur le son et les bruits. Et on va déployer ce qu'on va appeler la typologie, un discours par coup frappé. Tout cela prend naissance, je pense, inconsciemment, sur une technique bien connue de l'époque, le code Morse, inventé en 1840 par Samuel Morse. La même logique de coup frappé va permettre de communiquer avec l'invisible. C'est ça, en fait, la télégraphie. Oui. C'est on communique avec un destinataire qui nous reste invisible par le biais de petits coups frappé comme cela. Et je pense que dans cette génération où les câbles télégraphiques se déploient dans tout le pays, tous les États-Unis, c'est quelque chose que inconsciemment qui encore fascine à l'époque et dont vont s'inspirer justement les fillettes, avec un petit peu ce geste innocent de coup frappé qui va être repris évidemment par la mère.
Philippe, vous avez parlé de l'opportunité d'émancipation pour certaines femmes, mais est-ce que Clémentine a plus d'appétence pour la médiumnité et pour parler avec les morts que Stéphane, par exemple ? Est-ce que les femmes sont plus dans le mood pour interagir avec les fantômes ?
Eh bien, précisément, aux yeux des adeptes du spiritualisme et puis du spiritisme, clairement, la féminité est une norme. Il faut le dire comme ça, parce que la sensibilité, la passivité, l'impressionnabilité vont être de véritables vertus professionnelles, de pratiques de la médiumnité pour ces partisans.
Vous voulez dire que les morts ne communiquent qu'à travers les femmes ?
Pas exclusivement, il y a toute une série de médiums masculins, mais si vous voulez, les mieux placés restent les femmes, parce qu'elles sont les maîtresses du foyer. Il faut rappeler que les premières séances de spiritisme vont avoir lieu dans des maisons, et qui tient effectivement les rênes de la domesticité en termes justement de gestion du foyer, etc., c'est la femme qui va devenir la maîtresse de cérémonie à table, puisqu'on va aussi très rapidement s'entourer des proches, de la famille, autour d'une table pour, un peu plus tard, la faire léviter, la faire parler aussi.
Philippe, qu'est-ce qui explique le succès fulgurant des trois sœurs Fox ? C'est justement, ça tient peut-être au fait qu'elles étaient trois sœurs, plutôt jolies, et puis qu'elles parlaient aux fantômes.
C'est surtout leur énergie, leur activisme, en fait. Je pense qu'il les a beaucoup aidées dans ce parcours, même si elles vont avouer, puis se rétracter aussi au niveau de leurs aveux bien plus tard. Elles vont être managées par Léa, qui va devenir un peu leur impresario, faire une tournée gigantesque dans tout le pays. Et puis aussi et surtout le rôle considérable de la presse. Presse généraliste, presse spécialisée, généraliste qui va douter évidemment, mais en même temps faire de la publicité quelque part à ce phénomène-là. Et puis la presse spiritualiste qui va voir le jour. Près de 80 périodiques dans tout le pays qui vont naître à cette période et diffuser à leur manière la propagande spiritualiste.
Dans votre livre, vous expliquez à propos de Margaret Fox qu'elle se dit investie d'une mission confiée par les esprits qui l'auraient invitée à employer une table pour communiquer plus facilement avec eux. Qu'est-ce que c'est que cette pratique des tables ? Sont vraiment les sœurs Fox ont cette idée d'utiliser une table, un guéridon, des bruits pour invoquer les esprits ?
Bon, il y a à vrai dire, au-delà de la légende qu'elles-mêmes ont forgée, de cette mythologie personnelle, un caractère très ancien de la table. Il me semble que Tertullien, déjà devant le Sénat romain au 2e siècle après Jésus-Christ, parler de ce procédé. Donc rien de nouveau sous le soleil, mais par contre, effectivement, une grande publicité à cette facilité de l'emploi, eh bien justement d'un élément du mobilier qu'on a tous sous la main, autour duquel vont se trouver eh bien, la famille, etc. On va se tenir la main pour faire léviter et bouger la table pour qu'elle devienne quelque part eh bien, le partenaire du médium humain. Et ces tables tournantes, mouvantes, vont devenir par la suite des tables parlantes, toujours avec cette même logique de coup frappé, pour décliner l'alphabet et donner à entendre des messages.
Vous-même, vous avez déjà assisté à une séance de table tournante, Fim, on imagine que ça doit être très impressionnant.
Alors, des séances de spiritisme, oui, pas précisément de table en lévitation, où j'ai pu voir à plusieurs reprises un médium en état modifié de conscience, en transe, qui se livrait à l'écriture automatique. Il racontait être en contact avec des entités, prêter son esprit et sa main à cette occasion à ses prétendues entités, et écrire, se mettre à délivrer un message sur des pages et des pages d'écriture. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Pourtant, bon, moi j'étais simplement observateur distant, hein. Je ne suis pas du tout une posture de croyant là-dessus, mais en tant qu'observateur distant, c'était assez fascinant. Et puis surtout, ces séances de table tournante, j'essaie de les documenter en tant qu'historien dans cette exposition Phénomène qui est actuellement visible au Musée d'Histoire de la Médecine avec des photos assez fascinantes, pour le coup assez troublantes, où on voit des tables de plusieurs dizaines de kilos propulsées dans les airs et contrôlées notamment par des médecins de l'époque au début du XXe siècle.
Alors vous documentez justement, vous l'avez dit, les sœurs cadettes Kate et Margaret, elles avouent plus tard que leurs démonstrations sont une véritable supercherie, hein, c'est une arnaque totale. Et pourtant, à la même époque, eh bien, il y a des journalistes, il y a des scientifiques, notamment en Allemagne, il y a également ces trois professeurs de médecine qui documentent de façon extrêmement précise tous ces phénomènes d'apparition, de déplacement d'objets. Il y a quand même une somme scientifique totale qui dit, d'une part, ça s'est vraiment produit, mais d'autre part, il y a quand même assez souvent des trucages, des aberrations qui font que ça n'est pas naturel et spontané, mais que c'est assez souvent aidé par l'homme.
Oui, parce que qu'ils soient sceptiques ou plutôt ouverts à ce type de phénomène, les scientifiques, les observateurs de l'époque vont passer des semaines, des mois, voire des années à élaborer des dispositifs expérimentaux, instrumentaux pour tenter, par le biais du protocole scientifique, de comprendre ces phénomènes, aboutir à des conclusions aussi contradictoires, il faut insister là-dessus, mais quand même, on note de grands noms de la science, comme eh bien, l'astrophysicien Zöllner, allemand d'origine, qui va aboutir à la conclusion qu'effectivement, on pourrait réfléchir à la possibilité d'une force psychique à l'œuvre chez les médiums, et puis William Crookes, qui lui-même va expertiser Kate Fox dans son laboratoire, et lui, en tant que physicien et chimiste, va également être complètement convaincu par l'authenticité des phénomènes qui vont venir justement s'ajouter à toute une série d'expériences qu'il va faire avec d'autres médiums en Angleterre et dire que oui, la médiumnité peut aussi s'expliquer par une force encore inconnue, inexplicable en tout cas de leur point de vue et en l'état des données scientifiques sur ce type de prouesse. Oui.
Est-ce que maintenant les techniques ont évolué et se sont modernisées pour communiquer avec les morts dans le spiritisme ?
Oui, depuis effectivement les tables parlantes, il y a eu la planche à Ouija, qu'on connaît tous aujourd'hui par le biais du cinéma, une planche en bois avec une goutte, où on va, durant les séances, effectivement, sous la prétendue action dictée des esprits, bouger la main et obtenir des messages. Et puis surtout avec la technologie, il faut rappeler l'imagination qu'a eu Thomas Edison pour tenter de mettre sur pied un nécrophone basé sur son phonographe qu'il avait breveté dans les années 1870.
Le nom est de vous, hein. Nécrophone, c'est vous qui avez trouvé le nom.
Exactement, mais qui est quand même employé dans la presse à l'époque, mais qui n'a jamais employé, effectivement, jamais baptisé de ce nom Thomas Edison, cette machine, qui n'a jamais vu le jour d'ailleurs, qui est restée à l'état de concept. Et puis, surtout, la transcommunication instrumentale, à partir des années 1950-1960, qui est une pratique qui consiste à mélanger le spiritisme et des machines qui vont être très simples. On va utiliser le magnétophone, on va utiliser la vidéo, on va utiliser la radio pour capter ce que les adeptes pensent être la voix des morts ou le visage des morts sur l'écran, sur la bande magnétique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale et qui est un étrange mélange de technologie et de spiritisme et qui se pratique encore actuellement.
Merci beaucoup, Philippe Baudouin, d'être revenu avec nous sur ces trois sœurs qui ont fanfaronné avec les fantômes, mais aussi avec leur public. Je rappelle votre dernier ouvrage, Surnaturel, qui s'intéresse au destin des femmes médiums qui, depuis la seconde moitié du 19e siècle, ont contribué à la naissance du spiritisme, paru aux éditions Pyramide. Ainsi que l'exposition dont vous assurez le commissariat, Phénomène, l'inexpliqué face à la science, qui se tient actuellement au Musée d'histoire de la médecine à Paris. Et c'est jusqu'au 28 janvier prochain. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz qui est à suivre.
Exactement, un petit indice sonore pour vous dire de quoi on va parler. Ah.
Alors, normalement, un indice, c'est fait pour nous mettre sur la voie.
Eh bien, justement, vous avez reconnu ? Vous ne connaissez pas T-Rex, le groupe ? Mon Dieu, vous n'aimez pas le glam rock. Donc, c'est pas grave.
Non, mais vous connaissez Clémentine ?
Non.
T-Rex.
Vous ne connaissez pas T-Rex ?
Non. Ah, franchement. Excusez-moi, non.
Mais bon, c'est pas grave. Je vous rassure, on va parler de l'animal.
Ah oui.
On va parler de l'animal et pas du groupe. On parlera aussi de musique et d'avion.
Très bien, mais attention, avant cet affrontement, on va lui laisser la parole. C'est Clémentine Portier-Caldenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, j'ai épousé un fantôme. Pas moi, hein. Mais c'est ce qu'on peut dire de nombreuses femmes dans certaines provinces rurales de Chine où le mariage posthume était une pratique courante. Et ça l'est toujours.
Et ça l'est toujours, hommes et femmes d'ailleurs. Et alors ça se passe principalement dans le Shaanxi et le Henan. Et oui, il est assez courant que deux âmes décédées se marient ou qu'une personne vivante épouse un fantôme. Parce que voyez-vous, la croyance en une vie après la mort est très puissante et très forte en Chine. Des parents vivants sont donc tenus de faire des offrandes régulières aux fantômes de leurs ancêtres pour s'assurer qu'ils sont heureux et qu'ils ont tout ce qu'il faut dans l'au-delà. Et ces offrandes, de quoi sont-elles constituées ? D'argent, de petites maisons ou de serviteurs en papier que l'on brûle afin de les... Hop, on les transfère dans l'au-delà par la crémation, par le feu. Vous avez sans doute déjà vu des images de Chinois qui, dans les cimetières, brûlent de l'argent, des faux billets de banque. Mmh. On vend beaucoup de faux billets de banque à certaines périodes de l'année en Chine. Alors pourquoi ? Pourquoi donc organiser un mariage fantôme ? Bon, alors je le disais déjà parce que il faut déjà assurer un confort matériel aux défunts dans l'au-delà, mais c'est aussi parce que si un homme ou une femme meurt célibataire, il va être tout seul dans l'au-delà. Et oui, et s'il n'est pas heureux parce qu'il est tout seul et qu'il s'ennuie, ben il va forcément revenir hanter les vivants. Donc il faut le caser. Il faut le caser, y compris ad patres. Ah, il y a une autre question importante. Est-ce qu'un enfant peut naître d'un mariage avec un fantôme? Oui, la question est très importante. Pourquoi? Parce que ce sont vos enfants, ce sont vos descendants qui vont perpétuer votre mémoire à l'aide de tablettes spirituelles. Qu'est-ce que c'est qu'une tablette spirituelle? Vous en avez peut-être vu aussi des images. C'est une petite tablette en bois qui est associée au défunt, sur lequel est gravé ou écrit son nom. Et on utilise cette petite tablette dans le rituel du souvenir. À côté, on brûle de l'encens, on dépose la nourriture, des boissons. Je le disais, on peut brûler des billets de banque, des choses comme ça. En gros, la tablette spirituelle est la Chine, ce qu'est le chrysanthème à la Toussaint. Pas de descendants ni de famille, pas d'offrande sur la tablette. Là, vous êtes mal. Alors, ce cas de figure est prévu, bien sûr. La famille peut adopter un héritier pour lui, parce que on pense au confort des morts, mais bien sûr, on pense aussi bien sûr au confort des vivants. Donc ces mariages avec des fantômes, c'est aussi bien pensé pour pouvoir contracter des alliances entre familles et arranger des héritages. Bon, donc là, le défunt, il est mort célibataire, il faut lui trouver un héritier. Alors, généralement, c'est le frère du défunt qui désigne un de ses propres enfants. On fait une sorte de contrat qui est placé sous la tablette spirituelle. Et donc, ce gamin, il aura la part du malheureux décédé, mais il aura aussi l'obligation d'aller mettre à brûler billets de banque, offrandes et compagnie sur la tablette du défunt. Ainsi, le fantôme ne sera jamais oublié. Tout le monde est content. Je récapitule, mais donc, vous avez bien compris qu'un mariage fantôme peut être contracté entre morts et que des morts, ou entre morts et vivants. Hein. Évidemment, si on est une femme célibataire épouse un fantôme, ben, elle améliore sa position dans la communauté. Et voilà, elle a une place.
Elle aura du mal à avoir des enfants.
Tout le monde. Alors, elle en a. Mais écoutez, en tout cas. Aujourd'hui encore, les familles se donnent un mal de chien pour que leur enfant décédé ait un conjoint convenable. Il existe des entremetteurs feng shui spéciaux pour les mariages fantômes, tout comme pour les mariages traditionnels chinois. Ils vont consulter les horoscopes pour s'assurer que les deux esprits sont convenablement appariés, que ce soit un fantôme et un vivant ou deux fantômes. Et le côté sordide de la chose, c'est que soit vous trouvez une personne vivante qui veut bien épouser un fantôme, soit vous devez trouver une morte. Et donc, dans ces régions de Chine, il y a un trafic de dépouilles. Une dépouille coûte dans les 3000 euros. Ben oui, c'est beaucoup pour une famille chinoise. Depuis 2006, une loi punit très sévèrement le vol de dépouilles, mais malgré tout, il y a encore des vols de tombes, des enlèvements et même des meurtres dans le but de fournir une épouse fantôme. Alors les cimetières ont commencé à installer la vidéosurveillance et à recommander des cercueils en béton pour essayer d'empêcher le vol de futurs mariés fantômes. Ça va quand même très loin, cette histoire. Enfin, faites bien attention en conclusion. Si en vous promenant, vous voyez au sol un paquet rouge rempli de billets de banque, surtout ne le ramassez pas, parce que le récupérer vous mettrait dans l'obligation de devenir le conjoint du fantôme pour lequel cet argent a été déposé là. Méfiance.
Il y a personne qui essaie de prendre
ça. Méfiance, les amis. Vive les mariés, en tout cas. Oui. Hein, qu'ils soient à pas très sous les deux pieds sur le plancher des vaches.
Mais merci beaucoup, Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Born to be Alive.
Oui, exactement. Born to be Alive, je suis très content moi, quand je prends la main. À un moment où, comme son nom l'indique, vous vous sentez plus vivant que jamais. Je vous pose des questions, vous me donnez des réponses. Ça, c'est ce qui est prévu, mais c'est vrai que dans ce quiz, tout peut arriver. Et on va le vérifier une nouvelle fois. On va commencer avec une question pour vous, Stéphane. Hein. Stéphane, vous êtes un homme de paradoxe. Un homme qui mange des quiches dans des assiettes aux armes de l'ancien collège royal et militaire de Thiron-Gardé. Eh bien, sachez que Tocqueville, philosophe du 19e, a donné son nom à un paradoxe. Le paradoxe de Tocqueville. Que signifie-t-il ? Que plus un peuple voit sa situation s'améliorer, plus il est sensible aux inégalités ? Ou que plus un peuple voit sa situation s'empirer, plus il accepte les dénis de démocratie ?
Comme Tocqueville s'est beaucoup intéressé à la démocratie, je dirais la deuxième solution.
C'est ce que
la
j'aurais deuxième. Dit aussi, oui.
Ça se tient. On écoute la réponse.
Vous avez perdu.
Eh non, c'était le contraire.
Attendez, il a écrit beaucoup sur la démocratie.
Oui, bien sûr.
Mais je trouve que les deux principes paraissent vrais en plus. C'est-à-dire que dans un pays en crise, le collectif devient secondaire et on pense davantage à protéger ses intérêts propres. Et en même temps, la prospérité encourage à l'action collective. Non, vous ne croyez pas, Stéphane ? Et de ce point de vue-là, les deux...
Les deux se tiennent. Il y en a un, c'est le paradoxe de Tocqueville et l'autre, c'est le paradoxe de Portier-Kaltenbach. Ça n'a rien à voir.
Mais il est intéressant.
Et qui est de
aussi.
L'autre, alors ?
Alors, donc, plus la situation d'un peuple s'améliore, plus il est sensible aux injustices. C'est le paradoxe de Tocqueville. Pour résumer, plus le bien-être augmente dans une population, plus le mécontentement augmente. Cette grogne devient permanente avec des attentes toujours plus élevées.
Et là, en ce moment, vous avez le sentiment que le mécontentement baisse puisque la situation empire.
Écoutez, vous m'avez confondu avec Tocqueville.
C'est le paradoxe de Berne.
Oui, c'est ça.
Mais avouez, c'est un sophisme. Mais...
Une question maintenant pour Clémentine. Partons il y a 68 millions d'années avec le fameux T-Rex. Le T-Rex avait des plumes, des écailles ou une queue poilue ?
Eh bien, je ne vois pas.
Oh, si, vous êtes très forte en anatomie.
Je ne vois pas.
Et en T-Rex.
Je ne vois pas des écailles sur un. Des plumes ?
Ou une queue poilue.
Une queue poilue, comme un castor.
Oui, ou un chien.
Oui.
Et le T-Rex, c'est un tyrannosaure, c'est
vous avez vu Jurassic
espèce...
Park ?
Oui.
C'est le grand méchant qui mange un monsieur.
Il n'a pas d'écailles, me semble-t-il. Il n'a pas de plumes non plus, donc il aurait une grosse queue poilue. Oui, bon, ben voilà, je réponds 3.
Vous pouvez le répéter, s'il vous plaît.
C'est ce que vous vouliez. Non, merci, c'est bon.
Qu'est-ce qu'il a,
vous m'avez parfaitement bien entendu.
J'aimerais bien vous entendre. On écoute la réponse.
Vous avez perdu.
C'était une égalisation de Clémentine qui s'est trompée également. Il avait des plumes.
Ah oui.
Il avait des plumes sur le dos et dans le cou. Selon Jack Horner, célèbre paléontologue américain, il y avait même des T-Rex avec des plumes roses qui dansaient pour attirer les T-Rex femelles.
Comment sait-on que les plumes étaient roses? On croirait Zizi Jean-Mère et mon truc en plumes.
Eh ben voilà.
Non mais écoutez,
ça, c'est mon T-Rex en
plumes. Comment sait-on que les T-Rex avaient des plumes? On en a peut-être trouvé sur les T-Rex fossilisés des restes de plumes qu'ils avaient comme ça un peu dans le cou. Mais qu'elles étaient
que
roses
dinosaures...
Quoi, parce qu'ils mangeaient des crevettes?
Tout à fait, vous avez tout résumé. On revient à Stéphane.
Oui.
Stéphane, je suis sûr que vous l'avez utilisé. Le Concorde, ça vous dit quelque chose? Vous avez eu la chance de...
Une fois, oui.
Dans le Concorde.
Invité par le président François Mitterrand.
Alors, on s'en souvient, le Concorde a été en service de 1976 à 2003. Il a été conçu conjointement par Aérospatiale et British Aerospace. Et pour sa première maquette, l'avion était baptisé Concorde. Mais sans E. Vrai ou faux?
Concorde.
Bah oui, pour les Anglais, évidemment.
Mais comme c'était entre l'aérospatiale et British Aerospace...
Je vais dire oui, tiens, c'est bien.
Moi, ça aurait pu être Concordia, sinon, c'est-à-dire quelque chose d'un peu latin qui aurait satisfait les deux.
Non, c'est pas possible, les Français n'auraient jamais accepté.
Donc c'était...
C'est non, c'est oui. Non, c'est...
Je parle du premier nom.
Hein. Le premier, ils pouvaient pas accepter, les Français n'auraient pas pu accepter Concorde sans E. Et donc, à mon avis, c'était carrément un autre nom.
Là, je vous parle de la maquette.
Mais
dites donc, mais donnez-lui la réponse tout de suite, tant qu'on y est.
On est bon? On reste là-dessus?
Vous pensez qu'il faut que je change d'avis?
C'est comme vous voulez.
C'est vrai.
Oh là là.
Vous avez gagné.
Ah voilà. J'ai bien fait de réfléchir.
Oh là, le scandale.
Mais non, mais vous allez comprendre, parce qu'en fait, il a tout dit. Il a tout dit, il a juste anticipé. Octobre 1963, le nom de l'avion est dévoilé sans le E et c'est un tollé en France. Le général de Gaulle met la pression. Un ministre britannique éteint l'incendie en déclarant que Concorde s'écrira désormais avec un E comme excellence, comme England, comme Europe et Entente.
Oh, c'était un malin celui-là.
Janvier 1976, c'est le premier vol du Concorde avec un E. Ouais. Bravo, bravo Stéphane, vous vous êtes bien débrouillé tout seul. Une question pour Clémentine. Quand on fait le signe V de la victoire avec ses doigts, on a coutume de dire que cela venait de la guerre de 100 ans. Hein. Les Français coupaient l'index et le majeur des archers anglais. Ceux qui pouvaient encore faire le signe, c'était ceux qui n'avaient jamais été capturés. Le V, c'est aussi la victoire pour les Français et victory pour les Britanniques. Mais c'est aussi Wagenstahl pour les Néerlandais. Cela signifie courage. Vrai ou faux?
Wagenstahl. Comment dit-on la force en allemand déjà, non? C'est Kraft, non? C'est Kraft. Wagenstahl, non. Wagenstahl, c'est pas ce.
Je parle de néerlandais là, hein.
Oui,
pas
d'allemand.
Mais
non, Wagenstahl, c'est
Wagen.
Wagenstahl. Qu'est-ce que c'est Wagenstahl? Non.
Vous dites non?
Non.
On vérifie.
Vous avez gagné.
Oui, Wagenstahl, ça veut dire porcherie. En néerlandais. Mais les néerlandais, il faut aussi le V, car Vrijheid signifie liberté. Écoutez, j'ai l'impression qu'on va être obligé de faire une petite question supplémentaire, une question que vous voulez partager.
Toujours, c'est agaçant lui, pour les questions.
Ah, il est vrai que ces temps-ci...
Est-ce que vous voulez renoncer?
Vous êtes en forme.
Je ne vais pas vous enfoncer, mais on est à 8 victoires consécutives.
Oui, mais j'en avais tellement d'autres.
Ça s'appelle une bérésina.
Non. Dites pas ça, vous savez. Si. Pas ça,
en tout cas, elle est très contente, Clémentine. Va-t-on vers une 9e victoire? C'est la question qui va vous départager. Parfois, les archéologues font des découvertes étonnantes. Et parfois, ils font des découvertes étonnantes en s'y prenant à deux fois. Quel trésor en deux parties a été découvert en 2014 à 7 ans d'intervalle? Plusieurs propositions. Une boucle d'oreille égyptienne sur une momie, et 7 ans après la deuxième. Un ski en Norvège. Et 7 ans après, le deuxième. Un bilboquet du Moyen-Âge trouvé dans le département de l'Aisne avec la boule. Et 7 ans après, le bâton qui rentre dedans.
Deux
pour Stéphane. Et le ski.
Le ski, moi je veux dire la boucle d'oreille.
La boucle d'oreille. Je crois qu'on est en route pour une fin de série puisque c'est Stéphane qui gagne avec le ski. En Norvège, un ski en bois vieux de 1300 ans a été découvert. Puis le deuxième, 7 ans plus tard. Le deuxième était 5 mètres plus loin.
Oh, et c'est
des
drôle,
skis
cette histoire.
Très viking. Ouais. Le ski était récupéré même avec un système pour fixer une chaussure.
Magnifique.
Ouais.
Magnifique.
Écoutez Stéphane, je vous sens soulagé.
C'est la fin d'une série noire sur le ski.
On reprend des couleurs. Merci Clémentine. Allez, filez vite.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez, Philippe Charlier, nos personnages du jour qui fanfaronnent avec les fantômes. Après les sœurs Léa, Margaret et Kate Fox qui ont fait croire qu'elles communiquaient avec les esprits, je vous raconte le couple Ed et Lorraine Warren. Deux des enquêteurs paranormaux les plus renommés de l'histoire américaine. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un autre Américain qui fait parler de lui aujourd'hui, il fait parler les morts lui aussi. Son nom, Tyler Henry.
Oui, Tyler Henry est une star. Il est à l'écoute de l'au-delà. C'est le nom de son show sur Netflix. Et non seulement il parle avec des fantômes, mais des fantômes proches des stars d'Hollywood. Oui, oui.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Ensemble, ils ont traqué partout aux États-Unis les esprits démoniaques, des esprits terrifiants, capables de prendre possession de simples mortels comme vous et moi, ou d'objets inanimés, un ours en peluche ou une poupée. Ils ont visité de terrifiants lieux hantés, exorcisé des adultes et des enfants. Je vous raconte maintenant le couple chasseur de fantômes, Ed et Lorraine Warren. Nous sommes au début des années 70 lorsque Donna, âgée d'une vingtaine d'années, se voit offrir une poupée de chiffon par sa mère. Une poupée qu'elle emporte dans le petit appartement qu'elle partage avec son amie Angie, qui, comme elle, est étudiante infirmière. Mais quelques jours après l'arrivée de la poupée, Donna constate qu'elle ne la retrouve pas toujours dans la position où elle l'avait laissée. Pire, en son absence, la poupée semble se déplacer seule d'une pièce à l'autre. Donna et Angie finissent alors par consulter une médium qui leur explique que le corps de la poupée semble possédé par l'esprit d'Annabelle Higgins, une petite fille morte bien des années auparavant. Grâce à la voyante, Annabelle demande même à Donna et Angie si elle peut rester auprès d'elle, ce que les jeunes femmes acceptent. Et c'est là que la situation dégénère. Des petits mots inquiétants apparaissent dans l'appartement, ainsi que des taches de sang. Lou, le petit ami d'Angie, insiste pour que les jeunes femmes se débarrassent au plus vite de la poupée. Une idée qui ne semble pas plaire à la principale intéressée qui tente d'étouffer Lou et lui griffe sauvagement le torse. Sur les conseils d'un prêtre, Donna et Angie, terrifiées, font alors appel au célèbre couple de chasseurs de démons, Ed et Lorraine Warren. Nés le 7 septembre 1926 au sein d'une famille catholique de Bridgeport dans le Connecticut, Edward Warren aurait vécu dans une maison hantée jusqu'à ses 12 ans. Il entend des portes s'ouvrir mystérieusement et des apparitions lui rendent visite. À 16 ans, il fait la rencontre de Lorraine Moran. La jeune femme posséderait elle aussi des dons médiumniques. Lorsqu'elle rencontre Ed, Lorraine prédit qu'elle passera le reste de sa vie avec lui. Si le couple est obligé de se séparer lorsque Ed Warren s'engage comme soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux profitent d'une permission pour se marier avant d'avoir une petite fille prénommée Judy. À son retour des combats, Ed Warren étudie l'art à la Perry Art School. Il peint des tableaux d'un genre bien particulier. L'un d'entre eux, par exemple, représente un village. Des ombres oppressantes semblent flotter au-dessus d'une des maisons. Serait-elle hantée ? Ed, marqué par les visions de son enfant, s'intéresse de plus en plus aux esprits. Et pour approcher les malheureux locataires de maisons hantées, il leur offre ses œuvres comme un geste amical, afin d'être invité à entrer. Lorraine Warren accompagne son époux dans sa quête, même si à l'origine, elle ne croit pas à ces apparitions surnaturelles. Mais tout change au début des années 50. Lorsque Ed l'emmène visiter Oceanbourne Mary House, une maison célèbre pour être hantée dans le New Hampshire, Lorraine se sent sortir de son propre corps et entend des esprits tourmentés l'appeler à l'aide. Désormais, le couple Warren se donne pour mission d'aider les âmes perdues à trouver la paix. En 1952, ils fondent ensemble la New England Society for Psychic Research, un groupe de recherche sur le paranormal. La même année, ils ouvrent le musée de l'occulte dans le sous-sol de leur maison de Monroe, dans le Connecticut, et y exposent les objets hantés qu'ils ramènent de leurs opérations de plus en plus nombreuses. Pour ces opérations, le couple élabore une méthode précise. Sur place, Ed demande aux intéressés de raconter leur histoire. Il enregistre, prend des photos ou filme, tandis que Lorraine arpente la maison, tentant de localiser l'esprit grâce à son don de médium.
Si l'esprit est démoniaque, aide le repère à son odeur fétide d'excréments, de soufre et de chair en décomposition. Il y a aussi de terribles indices comme des traces de sang, des flaques d'urine ou des obscénités écrites sur les murs. Après avoir examiné ces manifestations avec attention, le couple Warren conseille les victimes sur la conduite à tenir, organise une séance de prière et, dans les cas les plus graves, fait appel à un exorciste. En 1968, une collecte de fonds est organisée au profit d'une bourse scolaire. On propose à Ed Warren de vendre ses tableaux, mais aussi de raconter au public les histoires de possession qui se cachent derrière chacun d'entre eux. C'est un incroyable succès. Bientôt, Ed et Lorraine donnent des conférences dans tous les États-Unis et même dans le monde. Ils apparaissent à la radio, à la télévision, où ils ont leur propre programme sur une chaîne locale, Seekers of the Supernatural, chercheurs de surnaturel. Ce sera également le titre d'un de leurs nombreux ouvrages. Les Warren commencent à se forger une solide réputation. Ed est d'ailleurs le seul démonologue, comme on les appelle, non ordonné, reconnu par l'Église catholique. C'est sans doute pour cette raison qu'ils reçoivent un soir l'appel d'un prêtre qui leur raconte une histoire des plus terrifiantes, celle de la poupée possédée par le démon. Ed et Lorraine Warren se rendent chez les propriétaires de l'horrible poupée et par mesure de sécurité l'emportent avec eux. Sur le chemin du retour, alors que celle qu'on dit possédée par l'esprit d'Annabelle est placée sur le siège arrière, les freins de l'automobile lâchent. Le couple craint l'accident à chaque virage, si bien qu'ils sont contraints de verser de l'eau bénite sur l'automobile pour arriver à bon port. Des histoires comme celle de la poupée Annabelle, le couple en a à la pelle. Elles ont inspiré des livres, des émissions de télévision et des films hollywoodiens tels que Conjuring, les dossiers Warren, réalisés par James Wan en 2013, s'inspirant de l'affaire de la famille Perron. En 1974, Roger et Caroline Perron s'installent avec leurs cinq filles dans une grande maison d'Harrisville, dans l'État de Rhode Island. Ils ne se doutent pas que deux siècles auparavant, une sorcière y aurait assassiné ses propres enfants avant de se pendre. Son fantôme s'en prend à la famille Perron et plus particulièrement à la mère, Caroline, qui appelle Ed et Lorraine Warren à l'aide. Ces derniers se déplacent avec un prêtre et toute une équipe, mais leur présence rend l'esprit furieux. Caroline Perron se met à parler une langue inconnue. Sa chaise lévite et la projette dans les airs. Le fantôme devient tellement agressif qu'Ed et Lorraine Warren sont contraints de fuir. Ces histoires font froid dans le dos, n'est-ce pas? À tel point qu'on peut se demander si elles n'ont pas été inventées de toutes pièces. En 1977, le couple parti à Londres pour exorciser une fillette affronte de nombreux sceptiques persuadés que tout ceci n'est en réalité qu'une farce menée par une enfant en manque d'attention. On accuse le couple lui-même d'inventer ces histoires de revenants pour attirer l'attention des médias. Malgré la critique, le couple continue de chasser les démons jusqu'à l'AVC puis la mort d'Ed Warren le 23 août 2006. Le démonologue est enterré au cimetière de Stepney à Monroe, où il avait autrefois enquêté sur une dame blanche. Son épouse, Lorraine Warren, continue à intervenir sur différentes affaires avant de le rejoindre en avril 2019, après avoir passé une vie à fanfaronner avec les fantômes.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Ed et Lorraine Warren, nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste du cinéma d'horreur qui les connaît bien. Bonjour Gilles Panceau.
Bonjour.
Gilles Panceau, vous êtes réalisateur et journaliste spécialiste du cinéma fantastique et d'horreur. Est-ce que vous connaissiez l'histoire des époux Warren avant la fameuse saga des films Conjuring ?
Alors, je connaissais le nom des Warren parce que quand on s'intéresse au fantastique, à l'épouvante, aux maisons hantées, aux fantômes, ce sont des noms qui résonnent. Mais c'est vrai que les époux Warren ne sont pas très connus du public, en tout cas en France et en Europe. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce qu'ils ont quand même été l'objet de plusieurs téléréalités, de plusieurs émissions. Ils sont intervenus beaucoup. Mais ce qui est clair, c'est que grâce au film de la saga Conjuring, c'est devenu des superstars et même des superstars de fiction. C'est-à-dire que ce sont devenus des personnages qui sont sortis de la réalité pour devenir des icônes, presque des super-héros du paranormal.
Alors, j'ai expliqué dans mon récit les méthodes du couple Warren. Lorraine a des dons de médium, Ed serait démonologue. C'est Patrick Wilson qui joue son rôle dans la saga, qui l'explique lors d'une conférence. On l'écoute.
Mais vous êtes quoi, au juste ? Je veux dire, on vous appelle comment ? On nous appelle démonologues, mais il y a d'autres termes. Chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes.
Dingo.
Barjo.
Mais on préfère être connus simplement en tant que Ed et Lorraine Warren.
Concrètement, quel est le rôle d'Ed Warren aux côtés de sa femme? Il arrive à sentir la présence des fantômes.
En fait, ils sont assez complémentaires, enfin, d'après ce qu'on nous a raconté. C'est-à-dire que Lorraine Warren, c'est le médium, avec toute la panoplie qui va avec. Quand elle entre dans un lieu, elle sent des présences, elle discute avec les esprits, elle a des visions, elle se laisse même parfois posséder par des entités. Ed, lui, n'a pas ces dons-là. Donc c'est pour ça qu'il a décrété qu'il était démonologue. Il a une approche donc un peu plus cartésienne, on va dire plus scientifique. Quand il entre dans un lieu, il étudie, il essaye même peut-être de voir s'il n'y a pas des explications rationnelles derrière tout ça. Assez rapidement, on penche pour le paranormal. Il essaye aussi de grouper à cette approche scientifique une approche religieuse. Il a rencontré pas mal de prêtres, de rabbins, pour avoir aussi leur point de vue sur le sujet. Donc ils sont très complémentaires et c'est ce que montrent d'ailleurs les films. On sent bien qu'ils travaillent bien main dans la main et que l'un ne va pas sans l'autre.
Jean-Luc ?
Alors c'est James Wan qui a réalisé les deux premiers volets de la saga Conjuring en 2013 et 2016. On lui doit aussi le film Insidious et surtout le premier film d'une autre saga très célèbre de films d'horreur qui fait la passion de mon fils, qui s'appelle Saw. Je pose beaucoup de questions sur mon fils. Alors pourquoi à un moment il a choisi de mettre en scène l'histoire et les affaires des époux Warren? Comment c'est tombé chez lui?
C'est un projet qui remonte aux années 90, donc ça a mis du temps à se concrétiser. À l'initiative du premier film Conjuring, il y a un producteur qui s'appelle Tony De Rosa, qui a rencontré Ed et Lorraine Warren. Et ça n'est que beaucoup plus tard que le film s'est concrétisé et qu'on a fait appel à James Wan. Alors pourquoi James Wan? Vous l'avez dit, il est spécialisé dans l'horreur et l'épouvante. Il a surtout prouvé qu'il était capable, avec de tout petits budgets, de faire des films qui rapportaient gros et de lancer des franchises. Parce que quand il lance un film, généralement, il y a toute une série derrière. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui intéresse Wan, c'est pas tellement l'horreur graphique, c'est plutôt l'épouvante, l'angoisse, les choses qu'on ne voit pas. Ça peut paraître bizarre quand on connaît la saga Saw.
Très explicite, oui.
Saga très sanglante. D'ailleurs, tout le monde se souvient quand le sixième épisode de la saga est sorti chez nous en France, le fameux Saucisse. Tout le monde trouvait chez nous que le titre était bien trouvé. Mais il ne faut pas oublier que James Wan n'a réalisé que le premier et que le premier Saw n'est pas un film très sanglant. C'est plutôt un film qui s'appuie sur ce qu'on ne voit pas, sur ce que l'imagination du spectateur imagine, en fait, l'imagination imagine, à la place de ce que nous montre l'écran. Et c'est exactement de cette manière que James Wan va aborder l'histoire des époux Warren avec The Conjuring.
Alors comment James Wan, justement, et les réalisateurs suivants se sont documentés pour élaborer les scénarios de chacun des films? Est-ce qu'ils ont recueilli les témoignages de Ed et Lorraine Warren en personne? Est-ce que c'était d'autres films documentaires? Est-ce que c'était des livres, des articles?
Alors, ils ont trouvé leurs sources de première main, parce qu'effectivement, tout a commencé avec un témoignage de Ed Warren. Ed Warren a rencontré le fameux producteur qui est à l'initiative du premier film Conjuring et lui a fait écouter un témoignage qu'il a enregistré en 1970, donc la fameuse affaire Harrisville qui fait l'objet du film Conjuring. Et le producteur se dit « bon, ben là je tiens un sujet de film ». Il écrit une première mouture du scénario, mais ensuite il fait appel à des scénaristes professionnels qui sont les frères Hayes et il leur dit « bon ben voilà, au boulot les gars, faites-moi un scénario de film d'épouvante qui tienne la route avec ça ». Et entre-temps, Ed Warren est décédé, mais pas Lorraine. Et donc, ils se sont entretenus avec Lorraine, souvent, pour avoir sa version des faits. Et c'est donc en s'appuyant sur son témoignage et sur les enregistrements de Ed Warren que le scénario a été écrit. Et puis, Lorraine Warren est officiellement consultante sur le film, tout comme certains membres de la famille qui est à l'objet, justement, de ce que raconte le film Conjuring. Ils étaient là. Lorraine Warren joue même un tout petit rôle, elle fait une petite apparition. Donc, elle cautionne officiellement le film et a déclaré à plusieurs reprises que le film était très respectueux de ce qui s'est vraiment passé.
Mais les époux Warren, c'est vrai, sont assez séduisants, ils sont charismatiques dans les films de la saga, mais ils ont aussi leurs faiblesses puisqu'ils sont visiblement profondément touchés et investis par ce qu'ils vivent. Est-ce que ça en faisait des personnages de héros, des héros de films?
Alors évidemment, avec ces acteurs qui ont été choisis pour les incarner, ils ont une patine plus glamour, plus charismatique encore que n'étaient les vrais époux Warren. Mais ceux qui ont rencontré les époux Warren décrivent quand même des gens charmants, des gens très sympathiques, des gens très charismatiques. Donc des personnages qui forment le terreau de héros de cinéma. Et puis il y a cette fameuse caution d'après une histoire vraie.
Oui.
Alors on sait que d'après une histoire vraie, c'est juste une caution qui est souvent une caution marketing.
Mais là, en l'occurrence, c'était vrai.
Alors, c'était vrai. Qu'est-ce que voilà
Qu'est-ce qui est vrai
Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui n'est pas vrai Mais en tout cas, bon, on sait que l'un des titres de travail du premier film, c'était The Warren Files, c'est-à-dire les dossiers Warren. Mais James Wan s'est dit non, on va appeler ça The Conjuring, ça nous détache un peu de... Voilà, on n'est pas un documentaire, c'est de la fiction. On prend toutes les libertés artistiques que nous autorise la fiction. On ne nous fait pas croire qu'on regarde la réalité, mais qu'on regarde un film inspiré de la réalité.
Mais c'est vrai que pendant le tournage, il s'est passé des choses tout à fait étranges aussi.
Alors oui, mais alors ça, chaque fois qu'il y a un film d'horreur qui tourne autour du paranormal et des esprits, on nous raconte à chaque fois des anecdotes incroyables. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vaste opération marketing? Peut-être un mix des deux. C'est vrai que tout le monde s'y est mis. James Wan, déjà, quand il travaillait tard le soir chez lui sur le scénario, il raconte que son petit chien, qui est un petit chien très sympa et très calme, se mettait à grogner et aboyer dans les coins. Mystère, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On sait que les frères Hayes, donc les scénaristes, lorsqu'ils discutaient avec Lorraine Warren au téléphone pour se documenter sur le scénario, étaient souvent interrompus par des bruits bizarres, des parasites, et puis la ligne qui se coupait. Mystère, que s'est-il passé? Sur le tournage, il y a la famille Perron, donc qui est la famille qui est mise en scène dans le film, qui est venue voir le décor, qui est une reproduction à l'identique de leur maison, qui ont senti un vent froid, glacial, alors qu'il n'y avait pas de courant d'air. Là aussi, on n'en sait rien. Il y a même une des jeunes actrices qui a contracté une maladie du sang mystérieuse pendant le tournage, qui s'est interrompue à la fin du tournage. Alors, est-ce que tout ça est vrai? On n'en sait rien, mais bon, ça fait partie de la légende. Donc,
En tout cas, ça a été un succès de dingue, puisque le premier film sorti en 2013, avec un budget de 20 millions de dollars, en a rapporté 320 millions au box-office.
Wow.
Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que c'est vraiment le type d'histoire qui plaît au public? Est-ce qu'on a tous été attirés, depuis longtemps en l'occurrence, par les fantômes? C'est ce qu'on recherche en fait?
Oui, je crois qu'on a envie d'avoir peur, on a envie de frissonner, mais ça depuis qu'on est petit. Hein, c'est pour ça qu'on nous raconte des contes de fées avec des sorcières et des ogres. C'est pour ça que quand on est ado, on adore aller dans les trains fantômes et regarder des films d'horreur. On s'amuse à se faire peur. Et en fait, jouer à se faire peur, c'est une manière de contrôler sa peur aussi, de l'exorciser. C'est connu, il y a pas mal de réalisateurs qui font des films d'horreur et qui sont des trouillards invétérés, totalement assumés. On sait que Steven Spielberg, qui a toujours été pétrifié par les requins, est quand même l'homme qui a réalisé Les Dents de la Mer. Donc c'est sans doute pas un hasard. Et puis, encore une fois, il y a cette fameuse caution d'après une histoire vraie. En réalité, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, mais c'est un peu comme ces légendes urbaines qu'on se raconte au coin du feu. On a envie d'y croire, parce que y croire, c'est une manière, encore une fois, d'essayer de dépasser ses propres peurs, de conjurer ses peurs. Finalement, Conjuring, ce n'était pas un si mauvais titre.
C'est un très bon titre. Merci beaucoup, Gilles Pinceau, d'être venu avec nous sur ces époux qui fanfaronnaient avec les fantômes. Du moins, c'est ce qu'ils ont affirmé, et qui sont devenus des personnages emblématiques du cinéma d'épouvante. Je signale la récente parution de votre livre, Steven Avant Spielberg, aux éditions Michel Lafon.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et Philippe Charlier, on réunit des personnages qui fanfaronnent avec les fantômes. Après les sœurs Fox et Ed et Lorraine Warren, vous nous racontez, Jean-Luc, la star du genre, un certain Tyler Henry.
Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur de l'irrationnel, de l'étrange et de l'angoisse. Et pourtant, nous n'évoquerons ni Aphida Turner, ni l'historique Google de Philippe Charlier, avec ses mots-clés préférés. Autopsie, momie, putréfaction et jocarie. Car oui, entre deux décompositions, Philippe aime aussi faire du sport. Oui, je suis parti enquêter aux frontières du réel à la découverte de Tyler Henry. Tyler, c'est LE médium star d'Hollywood. Pourquoi? Parce qu'il possède une ligne directe avec l'au-delà. Un forfait illimité pour communiquer avec les morts. Il a probablement déjà reçu des news de Dalida, et je suis sûr que de temps en temps, il parle gingivite et bain de bouche avec Fernandelle. Vous pensez que je blague?
Oui.
Oui, je blague. Mais Tyler, lui, pas du tout. À 26 ans, il est à la tête d'un empire de la voyance estimé à plusieurs millions de dollars. Oubliez tout de suite la roulotte de Madame Irma, les vestes à épaulettes d'Elisabeth Tessier et les prédictions approximatives de Paco Rabanne. Ici, on écoute l'au-delà avec des facettes dentaires et un balayage californien face à Kim Kardashian ou Megan Fox. Le tout retransmis sur YouTube. Ça vous dirait, Stéphane, une petite consultation avec lui?
Écoutez, oui, si c'est gratuit, parce que...
C'est pas ça le problème, surtout. Le problème, c'est que, comme à la sécu, il faut s'asseoir, le jeune homme aurait 300 000 personnes en attente.
Oui, c'est ce qu'il prétend.
En tout cas, ça calme, 300 000 personnes en attente. Tout a commencé quand il avait 10 ans. À l'époque, sa grand-mère est en phase terminale d'un cancer. Et une nuit, de la même façon qu'un octogénaire se réveille certain qu'il doit changer sa couche confiance, Tyler se réveille, certain qu'elle vient de claquer. Sa grand-mère. pas sa couche confiance. Et avant qu'il ne puisse parler à sa maman de ce qu'il vient de ressentir, son père appelle pour annoncer le décès
de la grand-mère. Moi, si ça avait été mon fils, j'aurais tout de suite appelé Bruce Willis pour une petite consultation sur le pouce.
Je vais vous dire mon secret.
D'accord.
Je vois des gens qui sont morts.
Mais les parents de Taylor le laissent gentiment cultiver son don, si on peut appeler ça comme ça. Le jeune homme entreprend des études pour devenir infirmier en soins palliatifs, pensant que sa vocation est d'aider les gens à passer tranquillement dans l'au-delà. En même temps, quand on sait parler que les morts, il n'y a pas beaucoup d'options de carrière. Quand tu sais parler des morts, tu peux faire Jack Lang, mais parler avec les morts, à part médecin légiste ou voyant sur IDF1, c'est compliqué. Parallèlement, Taylor continue à cultiver son talent en proposant des séances privées dans une librairie ésotérique locale. Et très vite, tout Los Angeles en parle. Avec le Pokéball et le blanchiment d'Anu, Taylor Henry devient la nouvelle tendance qui attire les célébrités et les producteurs. En 2016, il décroche son émission, Hollywood Medium. Le concept, dans chaque épisode, Taylor reçoit 3 ou 4 célébrités et leur accorde une séance de voyance individuelle. À chaque séance, il apporte son petit carnet et un stylo qu'il utilise pour se distraire et surtout préparer son esprit à recevoir des visions. Ouais, c'est son truc ça, le gribouillage, sa marque de fabrique. Ses clients hyperventilent d'excitation quand il sort son Moleskine et son Big 4 couleurs. Pour rentrer en contact avec là où le proche décédé, il ouvre son carnet et se met à gribouiller frénétiquement comme un enfant possédé. Ses yeux partent sur le côté ou se révulsent vers le haut. Et c'est là qu'il commence à marmonner des et autres. Ah oui, c'est ça. Alors avec un peu moins d'érotisme dans la voix que ce que je viens de faire. Hein. Donc il fait tout ça. Certainement quand le défunt a daigné accepter l'appel. Et ça cartonne. Les célébrités ruinent des heures de maquillage en éclatant en sanglots lorsque Taylor rétablit la communication avec leurs proches disparus. Notre médium californien devient un véritable homme d'affaires et part en tournée dans tout le pays pour remplir les salles avec ses morts. Les premières critiques fusent. Certains l'accusent d'user de techniques de magicien n'ayant rien à voir avec un don médiumnique, entre questions bien trop ouvertes pour être honnête et informations sur les cobayes disponibles d'un simple clic sur le net. Tout est question de persuasion, je vais vous le prouver. Vous permettez, Stéphane, que je m'invite dans votre cerveau ?
Écoutez, si vous voulez, mais il n'y a pas grand-chose.
Alors, concentrons-nous, Stéphane. Laissez-moi entrer en vous. Je vois une porte, Stéphane. Je vois quelque chose qui obstrue cette porte. Non, je vois deux choses. Deux choses importantes pour vous. Des boudins de porte. Deux boudins de porte à poils durs. Vous leur avez donné des noms. Scoop et Mirza. Ça vous dit quelque chose ?
Ah oui, ça, je vous confirme que j'ai des boudins de porte avec des chiens.
Voilà, moi aussi. Oui. Oui, suis-je médium ? Eh ben non, j'ai juste lu Paris Match.
Oui. Ah voilà.
C'est pour ça.
Ah oui.
Eh oui, c'était l'arnaque de temps en temps. Ils ont juste les infos avant. Mais Taylor se moque des critiques. Il avance et signe un gros contrat avec Netflix pour créer La vie après la mort avec Taylor Henry. Le principe est toujours le même, mais au lieu de contacter les fantômes des célébrités, Taylor se concentre sur ceux des lambda. Le programme enfonce pas mal de portes ouvertes, mais franchement, ça se laisse regarder. Par exemple, sachant que le frère d'une de ses interlocutrices a été assassiné, Taylor va dire qu'il ressent comme un entourage néfaste autour du défunt, sans déconner. Et la pauvre sœur de réagir en sanglots. « Mais oui, c'est exactement ça. Ce sont des méchants qui ont tué mon frère. C'est bien à mon frère que vous êtes en train de parler. » Vous reconnaissez cet instrument ? Voilà, j'aurais pu vous passer du pipeau pour être un peu plus explicite, mais je reste avant tout un homme de goût. Si Taylor Henry communique réellement avec les morts, ce serait la découverte la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, après les toilettes japonaises et le halloumi grillé. Mais plutôt que de partager ce don extraordinaire avec des scientifiques, il a opté pour des stars entre deux promos qui avaient envie de parler de leur grand-mère ou de leur bichon frisé parti trop tôt sous les rues d'un SUV. De l'altruisme au narcissisme, la frontière est vraiment fine.
Ça, c'est bien dit, Jean-Luc. Tu as fait tout ça, c'est bien marketé.
C'est ultra bien marketé. Le garçon, on a envie de lui donner le bon Dieu sans confession, mais on peut avoir quelques doutes.
Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui fanfaronnent avec les fantômes pour retrouver deux garçons qui fanfaronnent eux aussi. David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines de la petite voiture sans permis, la voiturette.
La voiturette, exactement, oui. Qui peut intéresser les gens, bah, soit qui l'ont pas comme moi, soit qui l'ont plus, parce qu'ils ont fait des bêtises.
Enfin, on va pas très loin avec la voiturette. Hein.
Pas trop loin, c'est vrai.
Mais avant cela, on va partir plus loin, dans le passé. Comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui avec vous, Philippe Charlier, vous êtes notre médecin légiste de l'histoire. Et ça s'est passé dans le passé, des fantômes avant le Moyen-Âge, ça c'est possible. Vous en avez exhumé qui date de l'Antiquité gréco-romaine.
De l'Antiquité gréco-romaine, exactement. Ceci est d'après une histoire vraie. Nous sommes en Grèce et vous voici arrivés au bout d'un long chemin, cher Stéphane. Ah. Ou plutôt Stéphanos de Gaulle, avec un L bien sûr. Surnommé Stéphanos l'ancêtre. Et vous marchez au milieu de la garrigue qui sent bon le romarin, accompagné de votre petit chien Paléo Mirza. Sur un promontoire dominant la mer Ionienne, un sanctuaire, loin de tout, isolé comme au bout du monde. C'est le Nécromantéion de l'Achéron. Le sanctuaire où tout grec se rend lorsqu'il veut rencontrer les fantômes de ses ancêtres. Pendant des jours et des nuits, vous allez subir un régime alimentaire très particulier, fait de privations de viande et de l'ingurgitation répétée de baies et de fruits secs. Et puis un soir, enfin, on va venir vous chercher. Et vous allez descendre plusieurs volées d'escalier jusque dans les profondeurs du sanctuaire, des couloirs sombres, à demi nus, qui zigzaguent dans le sous-sol jusqu'à une grande salle voûtée. Là, dans les volutes de fumée, peut-être un peu hallucinogènes, des formes bizarres bougent contre le mur du fond, tandis que des bruits étranges se font entendre. On dirait les ancêtres des sœurs Fox. Eh bien non, ce sont les revenants familiaux qui vous font la grâce de vous apparaître et qui vous parlent, vous donnent des conseils, comme d'autres oracles. Des fantômes, tout ce qu'il y a de plus normaux, qu'on va rencontrer à ce qui est considéré comme une des portes des enfers.
Oui, mais mis à part ce sanctuaire très particulier, où trouver les fantômes dans l'Antiquité gréco-romaine?
Alors, si on n'a pas envie de faire ce long chemin vers vraiment un des bouts du monde, il existe, cher Stéphane, des maisons hantées, par exemple à Athènes. Pline le Jeune, au 1er siècle après Jésus-Christ, nous décrit une histoire de fantôme qui survient dans une maison où les visiteurs sont chaque nuit dérangés par des cliquetis de chaînes, par des portes qui claquent, par des grincements dans les murs, des lampes à huile dont la lumière est soufflée, etc. Et un jour arrive un philosophe, un certain Athénodore de Tarse, qui loue exprès la maison pour voir le spectre. Et celui-ci ne tarde pas à lui apparaître. Il est blanc, il est livide, il a des chaînes rouillées. On dirait un peu le fantôme de Canterville, sauf que c'est quand même plusieurs siècles auparavant. Et le vivant, le philosophe, le suit, le mort, jusque dans le jardin. Et là, le fantôme disparaît brutalement. Le lendemain, ce cher Athénodore de Tarse fait faire exécuter des fouilles archéologiques dans la cour et il exhume un squelette avec des chaînes. C'était sans doute un ancien esclave enterré sans les rituels funéraires. Et du coup, il procède à son inhumation comme il se doit, et le fantôme disparaît pour toujours. En fait, il faut comprendre que le fantôme n'était apparu que pour demander justice, pas pour faire peur. Il voulait juste une tombe, en bonne et due forme. Tout ce qu'il voulait, c'était mourir dignement.
Ça, on peut le comprendre. Existait-il, Philippe, une fête spécifiquement pour les morts dans l'Antiquité? Un peu comme on a le jour des morts au lendemain de la Toussaint chez nous.
Eh bien oui, il y avait la même chose. Cette fête des morts, ça s'appelait dans l'Antiquité romaine les Lemuria, du nom des revenants en latin, les lémures. Contrairement à nous, ce n'était pas les vivants qui allaient prier sur les tombeaux des morts. Non, c'était les morts qui sortaient des tombeaux pour aller à la rencontre des vivants. Ovid nous raconte ça à la façon avec laquelle le chef de famille doit d'abord inviter les défunts à venir, puis il les chasse à la fin de la journée. Tout se passe au mois de mai. Et il nous raconte la chose suivante, vers le milieu de la nuit, quand le silence favorise le sommeil, c'est un style très poétique, que l'on n'entend plus ni l'aboiement des chiens, ni les divers chants des oiseaux, l'homme qui est resté fidèle aux rites antiques, qui redoute les dieux, se lève. Aucune chaussure n'enveloppe ses pieds. De ses doigts réunis avec le pouce, il fait entendre le signal qui chasse les ombres légères, de peur qu'elles ne se lèvent devant lui s'il marche sans bruit. Trois fois, il va laver ses mains dans l'eau d'une fontaine. Il va se tourner, il va manger des fèves noires, et ensuite, il les recrache de sa bouche et il les jette derrière lui en disant « Je jette ces fèves et avec elles, je rachète moi et les miens ». 9 fois de suite, il fait ça sans se retourner derrière lui. Et puis le soir venu, il refait la même chose, le lavage des mains, le bruit du métal, le claquement des doigts. Et puis ensuite, il rejette encore des fèves et il dit « Fantôme paternel, partez ». Et la preuve qu'il a bien accompli sa mission, c'est qu'à ce moment-là, quand il se retourne, eh ben, il n'y a aucun fantôme derrière lui.
Alors personne ne va dans les cimetières?
Eh bien, si, on va quand même un petit peu dans les cimetières. Les familles se rendent sur les tombes pour donner de la nourriture, mettre du parfum ou des huiles sur les pierres tombales. Ce n'est pas les monuments comme chez nous maintenant, avec juste des fleurs. À l'époque, c'est suintant, c'est couvert de victuailles. Et il y a même des sorciers qui vont déposer des petites sortes de poupées vaudou, comme en Haïti actuellement. On appelle ça des catadesmos en grec ou des tabellae de fictionum en latin. C'est des petites tablettes de plomb. Toujours, elles sont accompagnées de cheveux, de poils, de rognures d'ongles, des choses comme ça. Ce sont des fragments physiques de la cible, c'est-à-dire la future victime. Et le sorcier va graver des malédictions sur la tablette de plomb destinée à tuer, à rendre malade, à perdre un procès ou encore à rendre amoureux.
Mais quel rapport avec les morts?
Eh bien, c'est justement au pied des tombes des mauvais morts que les sorciers viennent déposer ces tablettes de malédiction. Ceux qui sont morts de morts violentes, les assassinés, les suicidés, les accidentés, et qui sont devenus depuis des fantômes. Ils vont agir dans l'ombre, des sortes de, vraiment d'esprits maléfiques. Pour se venger de leur mort prématurée, eh bien, ils vont faire du mal autour d'eux. Mais méfiez-vous, Stéphane, parce que je vois récupérer des cheveux de Clémentine Portier-Kaldenbach sur son siège pour préparer un petit sortilège d'envoûtement. Donc attention. Et en plus, vous parliez grec. Donc si j'étais Clémentine, je me méfierais. Un sortilège est en cours de préparation.
Mais non, je vous assure, Philippe Charlier, bon. Elle n'a rien à craindre.
Si, si, il fait ça pour gagner un quiz, je le sais.
Et merci, merci beaucoup, Philippe.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Philippe Charlier, surtout avec vous, David Cassé-Lopez. Aujourd'hui, les origines de la voiturette. Cette petite voiture qu'on conduit sans permis de conduire.
Exactement. J'ai fini par me dire, il y a quelques semaines, que je n'aurais jamais mon permis de conduire. Parce que je n'ai pas assez envie de l'avoir. Et pourquoi je n'ai pas assez envie de l'avoir ? Eh bien parce que d'une part, la carotte n'est pas assez conséquente, hein, titre, dans le sens où j'habite à Paris et que je suis entouré de gens qui savent conduire, et que quand il n'y a personne, eh bien je peux prendre des taxis. Et d'autre part, je sais que même si je le passais, mon permis, je serais toujours tenté de laisser conduire des gens plus expérimentés que moi pour des raisons de sécurité. Je n'aurai jamais mon permis, donc, mais... Il existe, vous le savez, des véhicules que l'on peut conduire sans avoir de permis. Alors peut-être que c'est difficile d'appeler ça des voitures, mais c'est des presque voitures, plus petites, qui vont moins vite et avec lesquelles on n'a pas le droit d'aller sur l'autoroute. Généralement, on appelle ça précisément des voitures sans permis, quelquefois des voiturettes. C'est une catégorie qui a beaucoup de succès auprès de deux types de gens. D'une part, les gens qui sont trop jeunes pour avoir leur permis, puisque les voiturettes, elles peuvent être conduites à partir de 14 ans. Hein. Et d'autre part, les chauffards hein, qui ont perdu leur permis parce qu'ils ont enfreint la loi. Je les vois, ces voitures, depuis que je suis enfant, et elles m'ont toujours fait un petit peu rêver parce qu'elles sont en quelque sorte à mi-chemin entre le jouet et la vraie chose. C'est un peu comme si une dinette avait l'eau courante. Vous voyez, c'est un peu l'effet que ça me fait, les voiturettes. Et ça m'a donné envie de savoir, comme d'habitude, depuis quand est-ce que ces voiturettes sans permis existent. Alors le premier véhicule dont on considère qu'il appartient à la catégorie des voiturettes, il a été inventé par un monsieur qui s'appelait Léon Bollé à la fin du 19e siècle. Bon, c'était plutôt une sorte de tricycle à moteur, pas si éloigné des tricycles qu'on voit aujourd'hui dans les rues de Paris, vous savez, mais qui sont des sortes de motos pour les gens qui ne savent pas faire de moto avec deux roues devant.
Ah, et les scooters.
Voilà, les scooters, mais qui sont des tricycles, oui, en fait, puisqu'ils ont trois roues. Et caractéristique rigolote de la voiturette de Léon Bollé, elle pouvait accueillir deux personnes, un conducteur et un passager, mais ce passager, il était assis devant le conducteur dans une position moins assuré et moins stable que le conducteur, ce qui a donné à cette voiturette le surnom de Tu belle-mère, puisque
on pouvait sa
belle-mère devant et que elle prenait plus de risques que vous. Bon, ensuite les voiturettes, elles ont connu des hauts et des bas dans leur cool. Elles sont d'abord tombées en désuétude, puis elles sont redevenues cool après la Seconde Guerre mondiale, surtout en Angleterre et en Allemagne, avant de retomber en désuétude dans les années 60 au moment où sont apparues les toutes petites voitures avec permis, hein, comme la 2 chevaux, la Fiat 500, la 4L, la Mini, Stéphane, hein, vous-même, vous savez. Mais le véritable boom de la voiturette sans permis, on est en train de le vivre maintenant. Entre 2017 et 2021, les ventes de voitures sans permis en France, elles ont augmenté de 70%.
Ah non.
Pourquoi ? Eh bien déjà parce que le gouvernement a abaissé l'âge à partir duquel on peut les conduire. Avant, c'était 16 ans, maintenant c'est 14. Aussi à cause du confort. Par rapport au modèle des années 60, les voitures sans permis aujourd'hui, elles ont souvent le Bluetooth, les vitres électriques, la climatisation, tout ça. Et aussi finalement de l'impression générale qu'elles sont quand même plus safe qu'avant. C'est vrai que maintenant, avant c'était vraiment des espèces de boîtes de conserve où on pouvait se tuer très facilement dedans. Aujourd'hui, elles ont des ceintures de sécurité, voire des airbags, comme la Twizy de Renault. Alors vous allez me dire, David, pourquoi tu ne te mets pas à la voiture sans permis, puisqu'on le répète, tu n'as pas ton permis. Eh bien, vous savez quoi ? Spécialement pour cette chronique, j'ai essayé. J'ai contacté une personne sur Internet qui s'appelle Régis et qui possède la nouvelle Citroën Ami, qui existe depuis 2 ans, je crois, qui est une voiture à la fois sans permis, mais aussi électrique, ce qui est cool. Et je suis allé l'essayer un dimanche matin à Puteaux en enregistrant ma conversation avec ce monsieur Régis. Alors Régis, il m'a dit de m'installer sur le siège du passager. Et j'ai vu qu'il avait pas l'air super à l'aise avec le fait que je sois dans sa voiturette. Et vous allez voir que ça se voit à la question qu'il me pose.
Bon, vous savez conduire un peu quand même.
Un petit peu, oui. Non, enfin, j'ai pris des cours de conduite.
Ah bon?
Voilà, vous voyez, il me pose la question, je savais que j'avais pas mon permis, vous savez conduire un petit peu quand même. Et à ce moment-là, Régis, il m'a dit, vous savez quoi, c'est plutôt moi qui vais conduire, pour l'instant en tout cas. Et donc, c'est ce qu'on a fait, hein, c'est lui qui a conduit sa voiture. Mais à force que je lui demande quand même, il a fini par accepter que je conduise un petit peu sa voiturette amie. Et là, pour la première fois de ma vie entière, je me suis déplacé dans une voiture, sur une route, avec d'autres voitures, et sans que la personne à ma droite ne soit un moniteur d'auto-école. Et je me suis senti terriblement adulte. Certes, la vitesse maximum de cette voiture, elle est de 45 km/h. J'ai pas pu aller plus vite que ça. Certes, dans cette voiture, il n'y a pas la place pour mettre autre chose que deux personnes et un sac à dos. Certes, on n'a pas le droit d'aller sur des vraies routes, comme par exemple le périph. Mais quand même, j'étais comme un garçon de 14 ans qui conduit pour la première fois. Donc merci les voitures sans permis.
Eh bien, merci beaucoup David. Ça vous a donné envie de passer la deuxième partie de votre permis?
Je pense que malheureusement, ça n'arrivera jamais. Mais peut-être d'acheter une voiture sans permis, ça c'est possible.
Très bien. Et on retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio, en vidéo, sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui sont tombés sur un os. Howard Carter et sa découverte du tombeau du roi égyptien Toutankhamon il y a tout juste 100 ans. Puis le commando de l'île Dieu tombé sur un os, ou plutôt un cercueil aussi, celui du maréchal Pétain qu'ils ont décidé de voler. Et vous Jean-Luc, vous nous racontez un homme plus vivant, mais qui aurait pu ne plus l'être.
Oui, car il a fait une chute de 47 étages. Il est tombé sur un os, et même plusieurs. Mais lui, c'était vraiment les siens. Je vais vous raconter sa folle histoire demain.
Eh bien, demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.